Bonjour et bienvenue dans Par Intermittence, le podcast de Tali Santé, le service de prévention et santé au travail qui s'occupe notamment des intermittents et intermittentes du spectacle. Je m'appelle Pierre-Emmanuel et je suis infirmier en santé au travail. Je vous propose d'aborder la santé et la prévention sous un nouvel angle, en écoutant le témoignage d'intermittents et d'intermittentes du spectacle qui nous parlent de leur parcours, leur métier et de son impact sur leur santé. Comment font-ils pour faire face aux risques professionnels et continuer à travailler dans les meilleures conditions possibles? Leur passion pour leur métier permet-elle d'absorber tous les aléas? C'est ce que nous allons tenter de mettre en lumière. Installez-vous confortablement et faites connaissance avec Julien, cadreur au PV. Bonjour Julien.
Bonjour Pierre-Emmanuel.
Alors, tu es cadreur au PV.
C'est ça, opérateur de prise de vue. La plupart du temps, je suis chef au PV même. Donc c'est s'occuper de tout ce qui est gestion de la caméra et de filmer pour des émissions. Moi je travaille principalement sur des émissions qu'on dit en ENG. Donc c'est des émissions où on tourne en petite équipe et où tout est enregistré directement sur la caméra. C'est pas trop les plateaux dont on a l'habitude, genre Big Deal et compagnie.
Comment t'en es venu à faire ce métier ?
Je suis arrivé là un peu par hasard en fait. Parfois je dis par échec scolaire à la base parce que c'est ça qui m'a mené vers l'audiovisuel. C'est le seul endroit où j'avais un intérêt et où j'étais pas nul. Et de fil en aiguille, en fait, après les études, le réseau a fait que j'étais plus à l'aise avec le milieu de la télévision qu'avec le milieu de la fiction. En fiction, c'est très hiérarchisé, c'est quelque chose dans lequel j'ai un peu de mal à me fondre, alors que justement, le type d'émission que je fais en ENG, c'est un fonctionnement plus horizontal, où y a plus d'échanges directs, quel que soit ton poste, que ce soit envers le réalisateur ou la production. Et je trouve ça plus sympa, ça me va mieux, c'est quelque chose qui me correspond.
Et t'as toujours été intéressé par la télévision ?
Ouais, j'ai grandi avec la télévision. Du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours attiré depuis que je suis petit. Et en fait, ça a du sens que je finisse par bosser dans la télévision quelque part. Quand je regarde un peu le parcours aujourd'hui, c'est plus logique que je finisse à bosser comme technicien dans la télévision que médecin ou avocat.
Et durant tes études, tu dois choisir une spécialité en fonction du secteur dans lequel tu veux travailler après ou c'est un socle commun ?
Et alors, moi j'ai eu la chance de faire des études où il y a eu un socle commun à la base qui m'a du coup beaucoup aidé pour la télévision parce que j'ai un poste souvent un peu pluridisciplinaire où je dois faire un peu de son, un peu de montage, des choses comme ça. Mais j'ai quand même eu à choisir une spécialité, donc j'ai choisi la spécialité image. C'était le domaine dans lequel je me sentais le mieux.
Comment s'est passée ta formation ?
Alors, ma formation a pas été de tout repos, parce que j'ai un milieu qui a rien à voir avec la télévision, et j'avais pas du tout de réseau, donc je suis parti sur une école privée, c'est un peu le truc qui s'offrait à moi quand je suis sorti du bac. Donc ça a pas été simple, parce que quand on vient d'un milieu très populaire, et qu'on se retrouve à devoir faire un pré-étudiant, à essayer de bosser un peu à côté pour faire ses études, c'est vite galère, surtout en région parisienne. Mais j'ai eu beaucoup de chance. En deuxième année, je devais faire un stage, mais je trouvais pas, parce qu'il me fallait absolument un stage rémunéré, sinon je pouvais pas payer mon loyer. Donc je galérais, et mon responsable pédagogique m'a envoyé dans la boîte d'un de ses potes, qui faisait des programmes télé pour Canal J. Déjà, c'est là où j'ai découvert un peu justement ce fonctionnement télé moins horizontal qui me correspondait mieux. Et c'est là que j'ai rencontré les personnes qui, une fois que j'ai fini mes études, m'ont fait rentrer en télévision et m'ont permis de bosser relativement vite pour quelqu'un qui sortait d'études.
Donc tu sors des études et tu deviens tout de suite cadreur au PV ou tu passes par différents emplois ?
En sortant d'études, j'ai un peu continué les galères de thunes, donc j'ai commencé surtout en agent d'accueil dans les cinémas. Et ensuite, je suis rentré comme ce qu'on appelle assistant vidéo sur des productions télé. Donc c'est un espèce de mélange des différents postes d'assistant opérateur qui existent en fiction. Tout ce qui est responsabilité du matériel, installer des régies dans des endroits qui sont pas faits pour, tout ce genre de choses. Et c'était assez rigolo. Enfin, les émissions n'étaient pas forcément hyper qualitatives, mais j'ai rencontré des gens très cool et j'ai appris plein de choses sur le tas et j'ai pu aller dans des lieux auxquels j'avais pas accès avant, donc c'était assez fun aussi, quoi.
Comment tu pourrais expliquer aux personnes qui nous écoutent ce que tu fais au quotidien dans ton travail, comment ça se passe ?
Donc le métier donc de PV, chef au PV, on est la personne qui manipule directement la caméra, qu'elle soit sur un pied ou sur notre épaule, c'est nous qui réalisons tous les gestes techniques. On assure ce qui va être vu par le spectateur. C'est-à-dire que c'est nous qui faisons toute l'image d'une séquence. Il y a un peu un côté, surtout sur les petites émissions que je fais, il y a un petit peu un côté de réalisation en direct aussi.
Et tu travailles avec une ou un journaliste en même temps pendant les prises de vue pour garder la ligne éditoriale ou t'as un topo avant et tu dois à peu près faire ce qui a été demandé?
J'ai trois manières de travailler différentes. Dans la manière la plus luxueuse, on va dire, c'est quand j'ai un réalisateur qui me parle dans l'oreille, c'est dirigé directement. La seconde manière, c'est avoir une petite équipe, donc souvent un édito avec moi, une personne qui gère tout le contenu éditorial. Et donc là, ça va plus être un travail d'équipe avec elle. Elle va pas forcément me dire quoi filmer. C'est à moi d'écouter ce qu'elle dit et ce qui se passe et de réagir en fonction. Et la troisième manière, bah là, je suis tout seul, donc j'ai un topo, je sais ce qu'ils veulent pour le programme. Et là, je me débrouille pour diriger la personne, faire des relances et tout. Mais c'est la manière dont j'aime le moins travailler parce que c'est pas forcément mieux payé. Et puis ça, je préfère bosser en équipe.
Et les horaires de travail pour ce type d'émission, c'est à peu près quoi ?
Alors les horaires de travail, malheureusement, notre milieu, c'est quelque chose de très aléatoire en fonction du niveau de respect du droit du travail des boîtes de production. Le pire du pire que j'ai fait sur une grosse émission de cuisine, ça a été 26 heures d'affilée. Mais ça, c'est quand j'ai débuté, donc j'étais à la fois pas tellement au fait de mes droits et un peu dans le côté, on est intermittent, il faut qu'on fasse nos heures, il y a cette pression aussi, donc on accepte aussi des boulots pas forcément réglo. Et donc ça, c'était il y a 10 ans que j'acceptais ça. Maintenant, c'est très rare que je dépasse vraiment les 8-10 heures de travail sur une journée parce que j'ai vraiment plus envie de me tuer la santé pour ça, quoi.
Donc quand ta journée se termine, t'as ta caméra, t'en fais quoi après de ta caméra ? Comment ça s'organise ?
Alors sur les tournages que je fais, j'ai souvent la chance d'avoir un assistant avec moi qui va re-ranger tout le matériel et le remettre dans le camion, puis après ça repart à la boîte de prod. Après ça peut arriver que je doive ramener le matériel chez le loueur, mais en tout cas, tout ce qui va être la gestion des rushs, ça va être la charge de la production. En fin de journée, je remets mes images où on récupère les cartes et j'en entends plus parler. C'est plutôt agréable, on va pas se mentir, hein, parce que au moins ça me permet de couper ma journée. C'est une fois que le tournage est terminé, souvent, au moins je peux passer à autre chose, comme je m'occupe pas de la post-production. Une fois que la journée de travail est terminée, j'ai pas la charge mentale de gérer la suite du tournage. Je passe à autre chose, souvent j'ai un autre tournage directement, ou juste je peux me reposer un petit peu.
Est-ce que ça t'arrive d'avoir des douleurs du fait de devoir porter une caméra dans ton métier ?
Alors, ça m'arrive d'avoir des douleurs du fait de porter une caméra ou même tout simplement le matériel de manière générale. C'était pire quand j'étais assistant vidéo, parce que assistant vidéo, c'est beaucoup de caisses à manipuler, mine de rien, et des caisses assez lourdes. On s'est déjà amusé à les passer sur un pèse-charge à Rungis avec des collègues et on voyait des caisses qui faisaient plus de 100 kilos qu'on portait à deux. C'était assez absurde. Au moins, avec la caméra, je me tiens droit et les journées sont moins longues. Donc, j'ai déjà eu un mieux physique grâce à ça, mais il y avait quelque chose que j'ai pas trop anticipé, où j'avais peut-être même trop la confiance, c'est la paternité. Où je me disais, j'ai l'habitude de pas beaucoup dormir et d'en chier physiquement, ça va passer. Et en fait, non, c'est un rouleau compresseur qui m'est arrivé dessus que j'ai pas vu venir. En fait, ce que j'ai beaucoup sous-estimé, c'est qu'entre les tournages qui étaient très éprouvants physiquement, eh bien, j'avais des temps de repos. Et avec un bébé, les temps de repos, ils existent plus. Et en fait, on continue à la maison les mauvaises habitudes physiques qu'on a en tournage. Par exemple, avec la caméra, je l'ai sur l'épaule droite, je me suis pas mal, on va dire, déformé musculairement vers la droite. Et bêtement, mon petit, je le prends toujours dans le bras droit. Et à force d'avoir des douleurs assez vives au niveau des épaules, des cervicales, des choses comme ça, mon kiné, au bout d'un moment, il m'a dit « ce serait bien d'utiliser les deux bras quand même de temps en temps ». Et comme je peux pas le faire dans mon boulot, faut que j'arrive à me forcer à me rééduquer à la maison pour ça. Et c'est pas forcément évident, parce que c'est de l'ordre du réflexe, en fait. On fait pas gaffe à ça. Mais d'aller voir un kiné, déjà, ça a été un peu salvateur pour moi à ce moment-là, parce qu'il m'a permis de travailler sur tous ces déséquilibres et surtout des douleurs qui peuvent être assez importantes. Depuis que j'ai 32-33 ans, je sais que j'ai de l'arthrose cervicale, pas mal liée déjà au fait d'avoir été grand et qu'à l'école on a des petites tables, et puis à mon boulot qui est pas top avec la caméra qui tape régulièrement, mine de rien, beaucoup de micro-chocs sur la tête, donc qui accentue les problèmes cervicales. Mais le kiné m'a permis de vachement travailler là-dessus et de diminuer énormément les douleurs. Après, ça s'est pas fait tout seul, c'est forcément du travail de notre part. C'est pas, y a beaucoup de collègues qui se reposent sur le côté un peu magique entre guillemets de l'ostéo, qui est là pour y réparer à un moment où il soulage même plutôt à un moment, mais c'est pas une réparation, c'est pas un soin complet. Et le kiné m'a plus poussé vraiment à reprendre le sport, l'activité physique plutôt en salle de sport pour le coup. Et j'ai même profité d'une offre près de chez moi où il y avait un coach sportif, comment dire, inclus dans le forfait de la salle. Et là, j'ai eu encore de la chance de tomber sur un coach sportif fasciné de biomécanique qui s'est vachement intéressé à mon cas et qui m'a permis d'avoir un planning à la salle qui était vraiment là pour compenser mes problèmes. Et des choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé à faire, qui sortent un peu des exercices classiques qu'on fait à la salle de sport quand on y va tout seul. Et ça m'a fait un bien fou physiquement. Donc ça, c'est quand même un peu de rigueur. J'y allais dès que je travaillais pas, j'y vais une ou deux heures. Mais derrière, j'avais mes douleurs cervicales qui avaient quasiment disparu. Et douleurs cervicales, c'est quand même des migraines, des choses comme ça qui peuvent arriver un peu régulièrement et qui nuisent au sommeil, tout ça. Donc c'est vraiment salvateur.
Donc on a pu observer à travers ce que tu viens de dire, c'est que les troubles musculo-squelettiques sont un des risques de ton métier. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Il y a quelque chose que j'ai pas mal remarqué en travaillant sur mes émissions de divertissement, c'est une certaine présence de la drogue et de l'alcool sur les tournages. Alors il y a forcément un peu le mythe, la télé, la fête, la coke, l'alcool et compagnie. C'est pas aussi vrai aujourd'hui, honnêtement, mais il y a des types de programmes sur lesquels il va y avoir une surreprésentation de ces choses-là. Déjà lié au rythme du travail, qui peut être assez difficile sur certains programmes. J'ai fait beaucoup de programmes où on travaillait du 14-17 heures par jour, ce qui, en plus d'être illégal, est quand même plutôt éreintant. Et quand on enchaîne les journées comme ça, il y a un besoin de décompresser qui est là, et c'est vrai que culturellement, il y a un truc où on va vite se diriger au moins vers l'alcool, surtout que quand on est en déplacement en province, ça va être restaurant tous les soirs. Donc une fois qu'on a fini la journée, on a encore plus besoin de décompresser. Alors on va se tourner vers l'alcool, mais il peut y aussi y avoir un comportement lié à l'envie de faire la fête et de se défouler où la drogue va s'ajouter. Et quand certains techniciens sont complètement cramés par leur soirée qu'ils ont improvisée la veille en plein milieu de tournage, et ben il va falloir reprendre de la drogue pour pouvoir tenir la journée. Et j'ai témoigné de pas mal de comportements comme ça qui sont assez nocifs. Mais j'ai ressenti quand même une pression sociale autour de ça, et que ça soit de la part de mes collègues techniciens ou même de la production, où si tu consommes pas, t'es pas fun, donc on te rappellera pas. Et il y a des programmes aujourd'hui où c'est le cas, où des collègues préfèrent ne pas y aller parce qu'ils savent quel comportement il va y avoir de la part du reste de l'équipe et où ça les intéresse pas.
Mais par exemple, l'employeur, il est garant de la santé et de la sécurité des personnes qu'il emploie. Ça, c'est pas quelque chose qui peut faire écho à ce que tu as pu vivre ou voir aussi qu'il n'y avait pas forcément d'incitation ou de pression sociale de la part des employeurs.
Disons que dans les cas où la prise de drogue et d'alcool est quelque chose d'assumé dans l'équipe, souvent en fait ça vient aussi de la production, c'est pas les responsables, mais ça vient aussi d'eux parce que en fait tu embauches une équipe un peu à ton image aussi. Et si t'es dans une équipe avec un producteur qui aime beaucoup faire la fête et qui aime consommer pour faire la fête, eh bien il va avoir tendance à embaucher des personnes avec qui il va s'entendre et qui vont aller dans cette dynamique-là. Moi ça m'est déjà arrivé de m'embrouiller avec un producteur au restaurant parce que une fois avoir fini de manger, j'ai juste envie d'entrer à l'hôtel me reposer et tout de suite je suis pas drôle, je veux pas aller au casino et tout. Je fais ouais, mais en fait moi je suis là pour travailler, je suis pas là pour faire la teuf. Et donc j'ai jamais retravaillé avec lui. Mais encore une fois, c'est pas sur tous les tournages qu'on retrouve ça. Il peut y avoir un petit côté un peu générationnel où on va dire les plus jeunes générations préfèrent garder ça vraiment pour la fête en dehors du travail. Ils ont moins un côté de fusion de leur vie sociale et de leur vie professionnelle. Et ça impacte des personnes, surtout en fin de carrière, où il y a des problèmes de santé qui se cumulent et qui peuvent entraîner une certaine spirale destructrice où la perte de travail va leur entraîner derrière des problèmes de finances qui va faire que et ça va accentuer les problèmes et ça s'arrête pas. En fait, on a un peu un métier où ça se voit pas tant que ça. C'est-à-dire que les personnes qui vont avoir l'habitude de travailler en ayant bu un Ricard ou en ayant pris autre chose, ils vont quand même s'en sortir parce qu'on fait tellement de volume qu'il y aura forcément des bonnes choses dedans. Qu'on filme pendant 10 heures une journée à plusieurs caméras, donc ça va faire 30 heures de rush. Au final, au montage, on en garde 40-30 minutes. Donc ça va pas forcément se voir. Voir, ça va passer pour quelque chose, un comportement un peu artistique. Ça peut être valorisé comme ça aussi. Et moi, c'est un peu cette valorisation qui me pose problème parce que, comme on est quelque part aussi un peu isolé en tant que travailleur, parce qu'on n'est pas toute la journée, tous les mois avec les mêmes personnes, on voit pas forcément la situation d'un collègue se détériorer, que ce soit au niveau de sa qualité de travail, de sa santé ou de sa famille. Et parfois, quand on s'en rend compte, bah en fait, il est trop tard et on se rend compte que c'était peut-être pas si fun que ça de voir le collègue qui aime bien faire la fête en tournage se démonter tous les soirs. Et malheureusement, c'est des cas que j'ai connus et qui font qu'aujourd'hui, moi, ça me fait un peu réagir et j'essaie de faire plus de prévention autour de moi sur ces sujets parce que faut quand même qu'on fasse attention.
Mais est-ce que tu observes quand même des changements de mentalité?
Ouais, j'observe quand même pas mal de changements de mentalité là sur les. Bah, du coup, ouais, ça, j'ai 12-13 ans de carrière. Alors, j'espère que c'est pas un biais lié à mon réseau qui s'est aussi affiné avec le temps, mais j'ai l'impression que y a quand même des comportements plus sains aujourd'hui qu'il y a 10 ans dans le boulot. Que ça soit pour tout ce qui est lié au côté festif, mais aussi pour ce qui est l'acceptation des conditions de travail et du respect des autres. C'est quand je repense, c'est vrai que ces dernières années, il y a eu pas mal de choses liées au mouvement MeToo, qui, à mon goût, n'a pas assez impacté le milieu de la télévision, mais qui a quand même fait évoluer une partie des mentalités, heureusement. Et quand je repense à ce que des collègues femmes ont pu subir il y a 10 ans de la part de techniciens, d'animateurs, de producteurs, de tout le monde en fait, ça arrive toujours, mais ça arrive moins et surtout les personnes osent plus se défendre et vont être plus solidaires. J'ai aussi l'impression que je vois plus souvent des techniciennes aujourd'hui qu'avant, ce qui a tendance à aussi un peu assainir les comportements et les conversations qu'on peut avoir. C'est-à-dire que le collègue qui va parler du physique de la stagiaire, qui le faisait sans problème avant, aujourd'hui, il va plus vraiment le faire. Et c'est pas plus mal. On peut aller vers du mieux. Après, il va toujours y avoir des réacs dans le milieu. Il y en a toujours qui vont penser qu'une femme peut pas porter une caméra toute une journée. Par contre, si elle est assistante et qu'elle porte des caisses de 40 kilos toute la journée, il n'y a pas de souci. On va dire que l'entre-soi masculin a quand même tendance à se fêler. Et j'espère que dans l'avenir, ça va continuer. Il y a un réalisateur avec qui j'adore bosser, mais bon, c'est le jeu, j'ai moins souvent l'occasion de travailler avec lui maintenant. Mais depuis quelques temps, il essaye de faire de plus en plus de tournages avec que des femmes dans son équipe technique. Et je trouve ça trop bien parce que, en fait, ça permet d'une part à des techniciennes de se faire de la place dans le milieu et de montrer qu'elles travaillent aussi bien qu'un homme sans problème, en fait. Il y a les caméras, ce qu'on appelle les caméras HF sur des événements sportifs, qui sont particulièrement lourdes déjà du poids de la caméra et du matériel qu'on met sur elle pour que les images puissent être captées par la régie. Moi, je sais que j'ai beau faire 1m85, être plutôt carré, une journée comme ça, ça me fait vraiment souffrir. Et j'ai des collègues féminines qui le font sans sourciler. C'est pas parce que je suis un mec et que je suis grand et un peu carré que je suis en meilleure forme physique qu'une femme qui va faire 20 cm de moins que moi. Ça a pas de sens, en fait. Donc, c'est bien que ça s'ouvre, c'est bien que le plafond de verre se fissure. Et j'espère qu'il y aura plus de parité à l'avenir dans le milieu.
Quel conseil t'aimerais donner à quelqu'un qui débute dans ce métier ou qui aimerait faire les mêmes études que toi ?
Je conseillerais à des nouveaux venus ou des personnes qui ont envie de faire ce métier de faire vraiment attention à leur santé. Quand on est dans la vingtaine et tout, on se remet plutôt facilement d'un tournage et un temps et enchaîner avec une soirée, ce genre de choses. Mais c'est difficile à avoir, mais il faut avoir un peu une vision à long terme. Et plus vite on fait attention physiquement à soi et plus longtemps déjà on pourra travailler sans avoir de douleurs chroniques. Et du coup, c'est aussi plus agréable de bosser comme ça, quoi. Personne n'aime porter la caméra toute la journée en ayant mal aux genoux, mal au dos, en boitant après. Si on peut faire ça en étant en bonne santé, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et ça permet de faire des émissions plus compliquées physiquement, qui sont souvent plus intéressantes aussi. Je pense que pour quelqu'un qui débute dans ce métier, il faut apprendre déjà ses droits. Si ce petit chemin t'amène à se syndiquer, je pense personnellement que c'est pas plus mal parce que ce sont les syndicats qui décident du cadre de nos conditions de travail. Déjà que beaucoup de boîtes de production ne vont pas respecter ce cadre, eh bien si on n'arrive pas à se défendre, ça va être encore pire. Et ça fait depuis 2 ans qu'il y a un regain du syndicalisme en audiovisuel, surtout en télévision. Et je trouve qu'on a déjà eu beaucoup de mieux pour tout ce qui est conditions de travail, paiement des heures sup, des choses qui sont mine de rien assez vitales pour nous. C'est pas obligatoire, chacun fait ce qu'il veut, mais au moins se renseigner sur ses droits, lire la convention collective, la connaître, ça me paraît primordial.
C'était le 15e épisode de Par Intermittence, un podcast de Tali Santé. Le service de prévention et santé au travail qui s'occupe notamment des intermittents et intermittentes du spectacle. Merci beaucoup à Julien pour son témoignage et à la lettre du musicien qui nous accueille dans son studio. Nous nous retrouvons très prochainement pour un prochain épisode. D'ici là, rendez-vous sur talisanté.org et les réseaux sociaux pour vous informer sur la prévention et la santé au travail.